innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui.
Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la nouvelle saison de Pépite, le podcast du Master MTI. Moi c'est Charles, étudiant du Master, et pendant cette saison, on va rencontrer des entrepreneurs, des artistes ou des innovateurs autour de différents sujets comme la créativité, l'innovation, la transition écologique et bien d'autres.
Rebonjour à tous, moi c'est Philippine, et dans cet épisode, on va parler de finances vertes et éthiques, d'épargne responsable, d'investissement au service du climat. Mais on va surtout parler de Goodvest. Goodvest, c'est une solution digitale qu'ont créée en 2020 Joseph Chouafati et Antoine Beneteau, avec cet objectif d'avoir une épargne engagée pour l'environnement. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un de ses fondateurs, Joseph Chouafati.
Pour commencer, Joseph, merci d'être ici avec nous. Avant de parler de ton aventure chez Goodvest, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, qui es-tu et d'où t'es venue l'idée de cette start-up ?
Avec plaisir. Donc effectivement, Joseph Chouafati, bravo pour la prononciation, c'était pas gagné. En général, ça pose problème. J'ai 25 ans, j'ai cofondé Goodvest il y a maintenant 2 ans avec Antoine. Sinon, je suis parisien, j'ai fait un bac S. Ensuite, je suis parti étudier le secteur de l'accueil, le management à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, donc assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait un master XHEC entrepreneur. Je me suis rendu compte pendant mes études à Lausanne que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'entrepreneuriat. Et pendant le master, j'ai travaillé sur différents projets, toujours en lien avec l'environnement. Le premier qui était dans le secteur hôtelier, qui était le principe, c'est de faire des petites bouteilles gel douche, shampoing, plutôt de remplacer les petites bouteilles de gel douche et shampoing qui sont en plastique, qui représentent 26 milliards de déchets par an, par des belles bouteilles en verre ou en inox, mais qui sont réutilisables, donc faire du vrac en fait. Le deuxième projet, c'était pour éliminer les produits ménagers qui sont composés à 90 ou 95% d'eau, et donc pareil, de faire du vrac là-dessus. Troisième projet, c'était sur la location de vêtements entre particuliers pour éviter d'acheter chaque fois pour les filles qui achètent des robes parfois une seule fois pour une soirée, mais pour pouvoir les faire tourner et réduire un peu le budget vestimentaire et aussi l'impact écologique. Et enfin, dernier projet du coup, Goodvest, où je me suis intéressé à l'épargne. Justement, en fait, c'était pendant le Covid, donc on ne pouvait pas dépenser notre épargne, donc je me suis retrouvé avec un peu d'épargne que je voulais placer, et je trouvais pas de solution en fait qui me correspondait, qui correspondait à mes valeurs. Et donc c'est avec ce problème-là que j'ai créé Goodvest. Juste à la fin du master, je me suis associé quelques mois plus tard avec Antoine Beneteau, et voilà, du coup maintenant ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette boîte.
Alors, juste avant qu'on parle un peu de ta solution, est-ce que tu peux juste nous redéfinir ce que c'est que la finance verte et éthique pour que tout le monde puisse comprendre ?
La finance, en fait, de base, elle est assez opaque, assez carbonée, comme l'économie, en fait, hein, vu qu'elle est très, très liée à l'économie. Et aujourd'hui, on le sait tous, l'économie n'est pas suffisamment bas carbone. Et donc, le principe de la finance verte, c'est justement d'essayer de financer un peu moins des entreprises qui sont assez carbonées, et un peu plus des projets plus responsables qui émettent moins de CO2 si c'est de la finance durable. Et il y a aussi de la finance à impact plutôt solidaire, où on va chercher à faire la création d'emplois, de l'intégration, etc. Cette finance verte, elle est très très large, ça veut tout et rien dire. Il y a beaucoup de greenwashing dedans, et donc ce qui est important, c'est dans la finance verte déceler un petit peu ce qui est de la communication et ce qui est de l'engagement concret.
Et du coup, c'est quoi concrètement Goodvest ?
Alors Goodvest, donc on est parti du principe que effectivement l'épargne était très carbonée. L'épargne financière moyenne d'un Français, c'est 25 000 euros. Et ces 25 000 euros, ils émettent en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Donc qu'est-ce que ça représente, 11 tonnes de CO2, ça parle pas toujours. Bah, ça représente plus que la consommation annuelle d'un Français, qui est environ entre 9 et 10 tonnes de CO2 par an. Et c'est une dizaine de vols Paris-New York en avion. Donc notre épargne émet énormément de CO2 parce qu'en fait elle est utilisée via des livrets, via des assurances-vie, pour le financement d'entreprises qui ont un impact assez néfaste, donc dans les énergies fossiles notamment. Et donc chez Goodvest, on a décidé de s'attaquer à ce problème. On a construit une méthodologie, que je vous expliquerai après parce qu'elle est un petit peu longue, mais qui est très assez scientifique et qui est transparente et qui permet d'avoir un portefeuille d'épargne qui respecte l'accord de Paris, qui va exclure entièrement les énergies fossiles et qui est transparent. Donc c'est une solution d'épargne en ligne, un gestionnaire d'épargne en fait, qui vous propose d'investir votre épargne en respectant vos valeurs et vos projets.
Et tu parlais au tout début que tu as fait du coup un master en entrepreneuriat, donc XHEC. C'est pendant ce master-là que tu as développé ta fibre entrepreneuriale et t'attaquais à des projets aussi colossaux que celui-ci. Et ma deuxième question, comment tu as rencontré ton cofondateur ?
Alors, pour répondre à la première question, j'avais déjà eu des initiatives entrepreneuriales, rien à voir avec ce qu'on fait chez Goodvest, mais j'organisais des événements en parallèle de mes études à Lausanne, sur Paris. Et donc j'avais déjà cette petite fibre entrepreneuriale. Au début, je pensais que c'était une passion pour le secteur de l'accueil ou l'événementiel, et après je me suis rendu compte que c'était plutôt vraiment pour l'entrepreneuriat en soi. Et en fait, Antoine Benetto, mon associé, je le connaissais depuis 3-4 ans, c'est un ami d'amis. Et en fait, quand j'ai cherché un cofondateur complémentaire, donc, qui était plutôt le CTO, responsable de toute la partie tech et produits pour lesquels j'ai pas du tout les compétences, j'avais posté sur LinkedIn, sur Instagram que je cherchais un CTO. J'en ai plusieurs qui m'ont contacté. J'ai travaillé avec 3-4 CTO différents pendant 2-3 mois. Avant de me poser et de me dire, ok, bon, bah voilà, celui avec lequel il y a le meilleur fit et qui a le plus les compétences pour développer ce projet, c'est Antoine. Et donc, on s'est associé avec Antoine à l'issue de cette période.
Mais il n'y a rien qui te prédestinait à aller travailler dans le monde de la finance, finalement, en fait. Ça t'est venu parce que tu t'es rendu compte du constat et tu t'es attaqué à ce problème aussi gros que le problème de la finance, ou tu avais dans ta famille ou dans tes proches des gens qui étaient dans le monde de la finance et qui t'en ont parlé?
Alors j'avais, mon père est dans la finance, travaille dans la finance depuis qu'il est jeune, donc il y avait cette connexion qui était là, mais c'est quand même assez différent ce qu'il fait et ce que nous on fait. Lui c'est une société de gestion qui travaille avec des institutionnels, donc avec voilà, des fonds de pension, des états, des grandes entreprises, dans le monde entier avec 95% de la clientèle qui est à l'étranger, 5% en France, nous c'est 100% de la clientèle en France, que des particuliers, on ne crée pas des fonds, on gère des portefeuilles qui sont posés de fonds, qui sont en fait gérés par des sociétés de gestion, qui sont des sociétés de gestion partenaires. Donc c'est quand même très très différent. Et donc ne m'a pas spécialement aidé dans la création de la boîte. Et je pense que je l'aurais fait tout de même. Mais c'est vrai que ça crée quand même une connexion avec le secteur.
Alors chez Goodvest, j'ai cru comprendre que vous vous investissiez dans différents domaines. Les forêts, l'accès à l'eau, l'emploi, etc. Du coup, comment ça se passe? Comment les clients choisissent d'investir dans tel ou tel thème? Et pour enchaîner, est-ce que c'était votre choix aussi de ne pas investir dans certains domaines? Est-ce que, par exemple, un domaine où c'est très carboné, ce n'est pas aussi l'enjeu de décarboner derrière et du coup investir pour pouvoir décarboner?
Ouais, je vois très bien ta question. Alors, comment ça se passe? Ça se passe en deux étapes. Une première étape que ne voit pas le client, c'est la sélection des fonds. Donc là-dessus, on part de l'ensemble des fonds dits durables, qui sont labellisés, qui sont catégorisés 8 et 9, on va pas rentrer dans la réglementation SFDR, mais c'est en gros les fonds les plus durables, dans lesquels il y a un peu tout hein, quand même. On a une méthodologie en entonnoir, on applique différents filtres. Le premier filtre, ça va être l'exclusion sectorielle. Donc effectivement, on va exclure toutes les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. On va exclure le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, le tabac, l'armement, un certain nombre de secteurs peu éthiques. Ça, c'est le premier filtre. Ça va éliminer bien 60-70% des fonds dits durables, parce qu'ils sont toujours massivement investis dans les énergies fossiles. Deuxième filtre, ça va être l'analyse de l'empreinte carbone. Donc, on analyse les émissions directes et indirectes de toutes les entreprises, que ce soit des actions ou des obligations, parce qu'on a ces deux types d'investissements. Et ça, on le fait en partenariat avec Carbon 4 Finance, donc qui est notre fournisseur de données sur la partie empreinte carbone. Ça nous permet de construire des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris, justement, parce que du coup, on a les émissions de CO2 de chaque entreprise, les émissions économisées, etc. Ensuite, on a un troisième filtre qui va être l'analyse de la politique de vote. Donc, ça va être un peu en lien avec ta question sur le fait qu'il faut aider les entreprises à se décarboner plus rapidement. Et donc là, on va vérifier que les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille exercent un pouvoir aux assemblées générales des actionnaires, en votant pour des plans climat plus ambitieux. En fait, en étant actionnaire, on décide de la politique d'une entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très important aussi. Donc ça, c'est les trois principaux filtres. Il y a quelques autres filtres. Et du coup, on arrive à environ 5% des fonds analysés qui rentrent dans nos allocations. Et après, on a un comité externe d'investissement qui est composé par différents patrons de sociétés de gestion qui n'ont rien à voir avec Goodvest, mais qui vont du coup nous challenger sur aussi la gestion financière. En tout, ils gèrent 100 milliards. Donc, c'est des personnalités fortes de la finance. Donc, ça, c'est la première étape. On arrive à un panier d'une vingtaine de fonds sur les... il y a 60 000 fonds en France. Donc, une vingtaine de fonds qui respectent nos critères. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la construction du portefeuille de l'épargnant. Ça, c'est super simple. C'est un site internet. Il répond à quelques questions pour qu'on comprenne un peu sa situation personnelle. Donc, est-ce qu'il ou elle a des prêts en cours? Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-elle? On lui demande de sélectionner ses thèmes d'investissement. Donc, en fonction de ses valeurs, on a un thème qui est présent par défaut, qui est la transition écologique. Et on peut sélectionner d'autres thèmes en fonction de ses valeurs, donc les forêts, l'accès à l'eau, l'insertion et l'emploi, etc., etc. Et ensuite, on fait une proposition sur mesure, donc qui va combiner toutes les infos réunies. C'est un algorithme qu'il fait. Et ensuite, l'épargnant a le choix. Soit il valide et il investit immédiatement. Soit il y a la possibilité de modifier son portefeuille si on veut prendre davantage de risques, le réduire, si on veut changer ses thèmes, etc. Soit on peut prendre rendez-vous avec un conseiller pour avoir une explication un peu plus détaillée et mieux comprendre, parce que c'est important de se poser pas mal de questions. Et ensuite, il y a la souscription qui se fait. Et une fois que la souscription est faite, sur son espace client, ça c'est assez unique, l'épargnant a accès à l'empreinte carbone de son épargne, aux émissions économisées, à la trajectoire de réchauffement climatique, en plus de toutes les données de performance, etc. Ça, c'est pour ta première question. J'attaque maintenant la deuxième. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, du coup, d'investir uniquement dans les pires élèves pour les aider à se décarboner plus vite? Évidemment, oui. Le petit souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vérifier que les sociétés de gestion vont effectivement avoir des plans climat ambitieux. Et aujourd'hui, il n'y a pas une mobilisation suffisamment forte pour ça. Je prends l'exemple assez cas d'école Total Energies, qui à chaque assemblée générale, il y a un certain nombre de sociétés de gestion, quand même des grosses sociétés de gestion, hein, ça peut être du Rothschild, etc., qui vont essayer de voter contre le plan climat actuel de Total Energies pour avoir un plan climat beaucoup plus ambitieux, parce que le plan climat Total Energies, il permet pas du tout de respecter l'accord de Paris. Donc ils vont aller challenger, essayer de renverser un petit peu la direction de Total, hein, parce que ça, concrètement c'est ça, hein, l'objectif c'est de soit leur forcer la main, soit de changer complètement la direction et donc de changer complètement la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ils réunissent 5%, 10%, 15% des voix, on est loin des 50% nécessaires, et donc on ne peut pas se dire on va investir à l'heure actuelle dans cette boîte-là pour changer les choses. C'est très compliqué, c'est quasiment impossible, donc on n'aurait pas un pouvoir suffisant. Par contre, on peut aller investir dans des acteurs qui ne sont pas sur les trajectoires 4, 5 degrés comme Total Energies, mais plutôt sur des trajectoires 2 degrés, 2,5 degrés, pour essayer de les faire tendre plus vers les 1,5 degrés. Et donc c'est ce qu'on fait chez Goodvest, hein. On ne va pas investir que dans des boîtes comme Alstom, qui ont déjà une trajectoire parfaite parce qu'ils font du ferroviaire, mais on va investir aussi dans des boîtes qui sont dans des secteurs pas comme les énergies fossiles, mais d'autres secteurs qui sont quand même un peu polluants, donc des industries par exemple, pour les aider à se décarboner plus vite et atteindre plus vite l'accord de Paris.
Mais du coup, est-ce que vous avez pensé à investir, je ne sais pas moi, dans des innovations, des initiatives justement qui rendent par exemple une logique d'économie circulaire? Je prends l'exemple des mégots, et aujourd'hui on peut utiliser les mégots pour en faire un matériau. Est-ce que c'est aussi le genre d'initiative que vous voulez accompagner et aider?
Clairement, nous, on investit vraiment dans tout type d'entreprise. Un portefeuille, si on sélectionne l'intégralité des thèmes, un portefeuille Goodvest, il va être investi dans plus de 1000 entreprises. 1000 entreprises et projets, donc aussi des obligations. Donc il y a vraiment tous les secteurs, pratiquement, sauf ceux qui sont exclus. Et donc tout type de projet, tout type d'entreprise derrière. Après, on investit majoritairement dans des grandes boîtes qui sont cotées, donc qui ont entre 100 et plusieurs 1000 employés, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine sécurité pour l'épargnant. Forcément, on fait de l'épargne, pas du capital risque, etc. Mais il y a quand même une partie qui va être investie dans des petites PME françaises non cotées, comme les cafés joyeux, des crèches solidaires, etc. Donc on peut investir dans vraiment tout type de boîtes, en visant des boîtes qui respectent l'accord de Paris, ou qui en sont très très proches, et qui vont pouvoir l'atteindre dans un scénario court terme.
Et pour revenir un peu sur l'entreprise en tant que telle, Goodvest, combien vous êtes aujourd'hui? Quel est le rythme de croissance de l'entreprise et comment vous en sortez par rapport aux autres acteurs qui se développent dans le monde de la finance verte en France?
Alors aujourd'hui, on est 23 personnes, on se développe plutôt bien, parce qu'on était 7 avant l'été, donc on a fait x3 là en 6 mois. Aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs qui a vraiment exactement la même proposition de valeur que nous. Il y a des acteurs dans la finance verte, des néobanques vertes par exemple. On va avoir des gestionnaires d'épargne en ligne, un peu comme Goodvest, mais qui n'ont pas une proposition de valeur qui est vraiment respect de l'accord de Paris, exclusion des énergies fossiles, etc. Là-dessus, on est le seul acteur aujourd'hui en France. Donc on a plutôt pour l'instant un boulevard. On fait le meilleur démarrage pour une solution d'assurance vie distribuée sur Internet de France, donc on est très content du lancement. On est à 20 millions d'euros sous gestion en un an et trois mois, donc assez satisfait. Voilà, pour l'instant, on voit régulièrement passer des decks, donc des présentations de projets similaires, mais il n'y en a pas qui se lancent pour l'instant. On espère quand même que ça va arriver, qu'il y a d'autres acteurs qui vont le faire, parce que tout seul, on ne va pas réussir à changer l'épargne en France. Il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne à décarboner, donc pas mal de boulot. Mais on est assez content du développement actuel, en tout cas. On a levé 4 millions d'euros en tout, dont une partie auprès de nos clients. On a vraiment une démarche assez participative là-dessus. Donc on est assez content. On a lancé notre deuxième produit aujourd'hui, qui est en bêta depuis quelques semaines, qui s'appelle Goodvest Kids, qui va permettre aux parents d'investir pour leurs enfants. Et on a plein d'autres projets pour 2023.
Trop bien. Et tu parlais justement d'autres acteurs. Moi, je pense à un acteur qui est assez connu, enfin on en parle beaucoup dans notre master, c'est Gringotts, je pense évidemment que tu dois connaître, qui a pour ambition de justement proposer un produit d'épargne. Comment tu te positionnes par rapport à eux, et est-ce que tu as déjà discuté avec la direction de Gringotts pour justement accomplir, parce que moi j'ai déjà écouté des podcasts de Maud qui parlait, qui disait nous on a envie que plein de gens nous rejoignent dans cette démarche-là, et si on pouvait, on n'existerait pas, parce qu'on aimerait que les banques elles-mêmes changent. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis-là?
Oui, je suis assez d'accord, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. J'espère qu'on ne va pas rester les seuls très très longtemps. Je connais très bien Andrea et Maud de Gringotts. Il y a trois acteurs qui sont lancés sur les banques vertes en France. Il y a Helios, qui est aujourd'hui le numéro 1. Ils ont à peu près 13 000 clients, c'est à peu près le double de ce qu'a Gringotts aujourd'hui. Gringotts qui s'est lancé du coup un peu plus récemment, il y a quasiment, ça va faire un peu moins d'un an. On a Only One également, qui était un des pionniers avec Helios. Et donc on a ces trois néobanques vertes, toutes les trois se développent plutôt très bien. Aujourd'hui, on est en partenariat ou en discussion avec deux de ces trois acteurs, pour ne pas les citer. Et il y en a effectivement qui veulent faire un peu leur route tout seul. C'est un choix qui est ambitieux et qui est risqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de néobanque française qui propose à la fois des solutions de paiement et des solutions d'investissement qui est indépendante. Tous les acteurs qui proposent les deux, ça va être par exemple Boursorama, etc. C'est des acteurs qui ne sont pas indépendants, qui sont sur des grosses banques, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est des agréments qui sont différents, c'est des projets qui sont différents. Et en plus, ces néobanques, elles ont l'ambition de devenir des vraies banques. Parce qu'aujourd'hui, c'est des prestataires de paiement. Hein. C'est pas eux qui gèrent directement les dépôts de leurs clients. Et donc, avoir à la fois le challenge de réussir la croissance d'une néobanque, qui est déjà un challenge extrêmement compliqué, très très concurrentiel, il y a des trentaines, quarantaines de néobanques en France, plus développer ses propres produits d'épargne, plus devenir une banque, obtenir les agréments bancaires, voilà, c'est un petit peu, c'est très très ambitieux pour ne pas dire impossible, en tout cas en restant indépendant. Donc il y a des choix à faire, il y a d'autres acteurs qui ont choisi de bosser ensemble. Moi je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on bosse ensemble, il faut que nous on apporte des clients à des néobanques vertes parmi notre base de clients, il faut que les bases de clients des néobanques vertes investissent sur des produits qui sont déjà existants et qui sont déjà aujourd'hui top comme Goodvest l'est sur le marché. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on se positionne, même si on trouve que c'est une super initiative et ils sont très bons en marketing.
Super, merci beaucoup.
Et du coup, ça s'adresse seulement en particulier, ou est-ce que vous avez aussi fait le choix de vous adresser aux entreprises, aux pouvoirs publics? Parce qu'il y a aussi, à mon avis, un gros boulot derrière.
Clairement. Alors, il faut commencer par, comme je disais, on ne peut pas tout faire en même temps, sinon on risque de se perdre. Donc, on a commencé par les particuliers uniquement. Maintenant de 0 à 90 ans, parce qu'avant c'était de 18 à 90 ans. Maintenant on a des bébés qui sont clients Goodvest via leurs parents. Donc c'était déjà une étape supplémentaire vraiment de s'adresser à tous les particuliers de 300 euros, donc ce qui est extrêmement bas pour l'assurance vie. Les minimums généralement sont plutôt entre 1000, 5000, 10 000 euros. Donc nous c'est dès 300 euros pour les moins de 26 ans. Parce que notre objectif c'était vraiment d'adresser tout le monde, justement aussi cette partie 0-26 ans où il n'y a pas forcément 10 000 ou 15 000 euros à investir d'un coup. Jusqu'à la gestion de fortune, on a un service vraiment aussi clientèle privée qui va accompagner sur des questions de patrimoine, de fiscalité, etc. nos clients. Donc on adresse vraiment tous les particuliers. Ça, c'était vraiment l'objectif qu'on a pris du temps et qu'on a atteint vraiment plusieurs étapes. Après, il y aura effectivement d'autres projets. L'objectif pour l'instant, ça va être de rester sur les particuliers en développant tout l'éventail de produits d'épargne et d'investissement. Donc, on a commencé par l'assurance vie, qui est le principal produit d'épargne en France. Ensuite, on va aller sur le plan d'épargne retraite, qui est un un produit qui va prendre de plus en plus d'importance parce qu'on le sait, c'est un peu chaud d'actualité. Moi, je compte pas vraiment sur l'État pour me payer ma retraite. De toute façon, je suis entrepreneur, donc il n'y a pas de retraite pour l'entrepreneur. Mais voilà, je pense que même pour les personnes qui vont être en CDI, il va falloir penser rapidement à une complémentaire retraite. Sinon, ça va être un peu sport au moment d'arriver à la retraite. Donc, il y a ce plan d'épargne retraite qu'on veut lancer. D'autres classes d'actifs comme l'immobilier, le private equity. Peut-être un jour des livrets également. Du crowdfunding, voilà, il y a beaucoup de produits différents. Donc, le premier objectif, c'est de devenir la plateforme de référence sur l'investissement responsable pour les particuliers, tout type d'investissement réuni. Ensuite, peut-être, il y aura deux stratégies possibles, soit lancer d'autres pays en Europe, soit lancer les entreprises. Aujourd'hui, il y a quand même des acteurs qui sont top sur les entreprises. Je pense par exemple à un acteur qui s'appelle Epsor, qui n'est pas forcément très, très connu du grand public, des particuliers, mais qui en entreprise est assez connu, qui a levé, qui a fait plusieurs levées de fonds, dont une dernière de 20 millions d'euros. Donc, ils se développent plutôt bien. Ils ont un prisme quand même pas mal sur la partie investissement responsable. Donc, on juge que pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de nous là-dessus. Peut-être qu'un jour, on ira, peut-être en partenariat avec eux. Mais pour l'instant, on reste focus sur les particuliers.
C'est marrant, tu parles de retraite. Alors, nous, on parle beaucoup de transition écologique dans nos cours, dans la vie au quotidien même, et il y en a beaucoup qui vont nous dire ta retraite, c'est pas sûr que t'en aies une, ça se trouve, 2050, t'es plus là. Toi, quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que t'es optimiste ou est-ce que t'es un peu un guéri défaitiste, c'est-à-dire tu te bats en sachant que les chances sont pas vraiment de notre côté et qu'on on a beaucoup de chances de perdre? Ou est-ce qu'au contraire, tu y vas et tu te dis non, mais on va y arriver, c'est avec des gars comme moi et plein de gens que je connais qu'on va y arriver?
Je pense que c'est un peu entre les deux en fait. C'est malheureusement assez peu probable qu'on respecte les 1,5 degrés de réchauffement climatique de l'accord de Paris. En tout cas, on est mal parti pour l'instant. Donc, sauf s'il y a une prise de conscience immédiate mondiale, quand on voit ce qui se passe actuellement au Qatar, on se dit bon, bah, c'est pas immédiat. Voilà, pour l'instant, on n'est pas très très bien parti là-dessus. Mais je pense qu'il faut se battre pour voilà, chaque 0,1 degré en fait. Donc, si on ne respecte pas les 2 degrés, bah, faut respecter les 2,1. Et ainsi de suite. Hein. Si on est tout de suite défaitiste, ben on va plutôt atteindre les 4 degrés. Et là, il y a des vraies questions à se poser, effectivement, sur notre survie sur le long terme. Bon, je pense qu'en 2050, tous les 3, il y a 9 chances sur 10 qu'on soit encore là. En 2050, voilà, on a de la chance, entre guillemets, nous, d'être en France. On est des privilégiés. On n'est pas dans des pays qui vont être beaucoup plus touchés que ça par que la France par le réchauffement climatique. Et vous êtes à Dauphine, moi j'ai créé ma boîte, je pense qu'on va survivre à 2050. Après, l'enjeu, c'est aussi d'essayer de participer à son échelle, à accélérer les choses par tous les moyens possibles. Donc en réduisant ses trajets en avion, en mangeant moins de viande, en décarbonant son épargne, en votant pour des politiques qui essayent de faire quelque chose. Donc voilà.
Alors moi, je me posais une question. On entend beaucoup parler de finances vertes, éthiques, etc. Moi, je me demandais, est-ce que la finance derrière verte, ce serait pas plutôt une grande tromperie? Est-ce que ce serait pas juste un passage obligé? Parce qu'en ce moment, on essaie un peu de tout changer et tout bouleverser et avoir une réelle transition écologique. Est-ce que c'est pas juste une illusion ou un passage obligé? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps?
Alors, très bonne question. Le terme en plus tromperie est très bien choisi parce qu'il y a un article dans Le Monde, je ne sais pas si tu l'as lu,
si.
Qui est sorti, voilà, je me disais quand même, le mot est bien choisi, qui est sorti il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, je crois, c'était il y a deux semaines exactement. La grande tromperie des fonds d'investissement vert sorti par Le Monde, en fait c'est une vingtaine de médias européens qui l'ont sorti dans chacun de leurs pays, donc énorme sujet. Bah, y a une grosse part de tromperie et l'enquête a plutôt raison là-dessus. Ils ont analysé en fait... Je vais rentrer un peu dans les détails. Il y a 3 classifications de fonds depuis que la réglementation SFDR a été mise en place à l'échelle européenne. Donc, les fonds d'investissement sont soit article 6. Donc, article 6, ça veut dire qu'il n'y a pas de vocation du tout à faire l'investissement responsable. Article 8, où en fait, il y a de la promotion d'engagements environnementaux sans que ce soit la stratégie primaire du fonds. Et article 9, il y a vraiment des... Normalement, le fonds est censé vraiment concrètement s'impliquer dans la transition écologique en faisant des choix d'exclusion, par exemple, de réduire l'empreinte carbone de son fonds au fur et à mesure des années, etc. etc. Donc, la majorité des acteurs sont placés aujourd'hui dans article 8 et 9, forcément. Parce que si on reste en article 6, bon, il y a toujours des fonds qui restent en article 6. Hein, mais aujourd'hui, ce qui collecte beaucoup auprès des sociétés de gestion, c'est les articles 8 et 9, surtout auprès des particuliers. Les articles 9 sont censés être des fonds à impact. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles. C'est les sociétés de gestion qui choisissent elles-mêmes comment elles classifient leurs fonds, sans critères. Donc, je peux déclarer que mon fonds, il est article 9, c'est du déclaratif. Et donc, ça pose un certain problème. Forcément, il y a beaucoup plus de fonds qui sont article 9 que de fonds qui sont vraiment des fonds à impact. Et l'enquête du Monde, elle souligne qu'il y a à peu près la moitié des fonds qui aujourd'hui investissent, des fonds article 9 qui investissent dans les énergies fossiles, dont certains, beaucoup. Il y en a qui sont à 30% d'implication dans les énergies fossiles, alors que c'est des fonds article 9 à impact. Bon. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans certains cas, ça peut se justifier si c'est s'il y a vraiment derrière une volonté de changer la stratégie d'entreprise. Et donc, c'est vrai que là-dessus, l'enquête du Monde voilà, s'arrête à des chiffres et il faudrait aller un petit peu plus loin concrètement. Mais il y a un vrai problème, c'est le problème auquel on s'attaque chez Goodvest. On a tout de suite rebondi là-dessus en disant que c'est vrai qu'aujourd'hui, la finance verte, il y a beaucoup de greenwashing dessus. Après, dire que toute la finance verte, c'est que du greenwashing, non. Bien sûr que non. Il y a des acteurs et des sociétés de gestion qui sont exemplaires là-dessus, qui le font depuis des années, comme Mirova, par exemple, Pictet, pas mal de sociétés de gestion, qui sont plutôt des exemples là-dessus. Après, voilà, on ne peut pas faire des fonds cotés qui vont investir uniquement dans des potagers bio qui vendent dans un commerce de proximité à 100 mètres. C'est pas possible, c'est pas ça l'économie, en fait. Et donc, il y a des puristes qui ne seront jamais contents. Mais y a évidemment une grosse part de vrai dans cette enquête. Et c'est top qu'elle mette le problème en avant. Mais on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et donc, même en faisant des fonds compatibles avec l'accord de Paris, il y a des entreprises qu'on ne pense pas compatibles avec l'accord de Paris. Il y a des industriels, il faut quand même investir dans l'agroalimentaire, il faut quand même investir dans le transport, il faut quand même investir dans l'énergie, sinon on n'arrive pas là. On est en train d'enregistrer avec des micros, on est sur une table, vous êtes devant vos Macs, il y a des entreprises qui produisent ça, et il faut aussi financer l'économie, quoi.
Est-ce que, là du coup tu parlais des sociétés de gestion, est-ce que Goodvest a vocation à l'avenir, dans un avenir, je sais pas, 10-15 ans, à devenir une société de gestion et du coup à plus avoir d'intermédiaires et pouvoir sélectionner elle-même les projets sur lesquels elle va investir?
C'est l'objectif également, évidemment, je pense à bien avant 10 à 15 ans. Après il y a une étape intermédiaire qui est probablement ce qu'on peut ou ce qu'on va faire, qui est de s'associer avec une société de gestion, donc du coup utiliser leur agrément pour nous-mêmes sélectionner les fonds, mais du coup en extériorisant toute cette partie juridique qui est très complexe qu'on doit mettre en place quand on devient une société de gestion. Mais donc sur le long terme, évidemment, l'idée c'est qu'on puisse s'affranchir de certains fonds en étant encore plus picky sur la sélection, parce qu'aujourd'hui on doit quand même faire avec l'existant, et même si on arrive à respecter tous les critères que j'ai donnés, voilà, il y a parfois certaines boîtes, on se dirait, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle est là. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de fonds aujourd'hui qui est vert, et qui investit que dans des boîtes qui sont excellentes sur tous les plans.
Et vos clients, ils ont accès du coup à j'imagine, mais on ne sait jamais, peut-être que certains ne savent pas vraiment. Est-ce qu'ils ont accès à l'ensemble des entreprises, des projets dans lesquels ils ont investi?
Alors, ils ont accès à l'impact de l'ensemble de leur portefeuille. Aujourd'hui, on donne accès sur demande aux clients qui nous le demandent la liste des entreprises. C'est 1000 entreprises qui n'ont pas forcément les noms de marques qu'on connaît, parce que c'est des libellés de boîtes, quoi. Donc, ce n'est pas forcément les noms des marques qu'on connaît. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, sur demande, on fait un rendez-vous avec le client, on lui déroule la liste, on lui explique, on lui permet directement de vérifier s'il veut savoir telle entreprise, est-ce qu'elle est là, telle entreprise, elle est là. Et sinon, on donne des exemples d'entreprises à tous nos clients. Mais aujourd'hui 1000 entreprises qui ont des noms pas forcément compréhensibles en termes d'expérience utilisateur, c'est pas idéal. À terme on veut le faire, mais on réfléchit encore à la manière dont on va pouvoir le faire. On l'a fait étape par étape, hein. Au début le client il avait accès à rien, aucune donnée, juste il investissait et il nous faisait confiance. Ensuite il a eu accès à l'empreinte carbone, à la trajectoire de réchauffement climatique, aux émissions économisées, à la liste des fonds, et à terme effectivement l'objectif c'est qu'il ait le plus de transparence possible.
Selon toi, elle est où concrètement l'urgence? Où est-ce qu'il faut qu'on investisse concrètement? Est-ce qu'il y a un domaine particulier où c'est vraiment là, faut investir.
Je pense que l'énergie, c'est une grosse étape, et les pays émergents, c'est un gros sujet. C'est que c'est top quand en Europe, on interdit les voitures à essence en 2035. Mais en fait, il va falloir que... Déjà, 2035, c'est un petit peu tard, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il va falloir que les autres pays, les pays émergents, accélèrent. Il faut qu'on les aide concrètement là-dessus. Donc, heureusement, il y a des plans de financement des pays émergents, mais c'est un sujet sur lequel il est difficile d'agir, y compris au niveau de l'épargne, parce qu'il y a peu de fonds en fait, bas carbone sur les pays émergents, parce qu'il y a aussi peu d'entreprises bas carbone dans les pays émergents. Mais pourtant, il faut les financer, il faut les aider, il faut financer des obligations massives de projets d'énergie renouvelable là-bas, d'accélération de la rénovation des bâtiments, du transport bas carbone. Et donc, il faut accepter parfois de faire aussi des compromis sur les pays émergents en se disant, bah voilà, ce fonds dans les pays émergents, il n'est pas à 1,5 degré, il va être à 2,2 degrés. Mais je ne peux pas me dire, on a une action concrète sur la transition écologique en excluant 3,5 milliards d'habitants qui émettent beaucoup de CO2 et qui vont en émettre de plus en plus. Donc il faut accompagner ces pays. Ça, c'est, je pense, un point sur lequel on ne parle pas suffisamment.
Mais du coup, vous, chez Goodvest, vous focalisez que sur l'Europe et sur la France, ou est-ce que vous tournez justement vers des pays en voie de développement ?
Alors, on tourne majoritairement sur les pays développés, mais on a un thème, pays émergents, donc on n'est pas obligé d'être exposé aux pays émergents quand on est client chez Goodvest. C'est un thème qu'on sélectionne au même titre qu'on va sélectionner l'accès à l'eau, par exemple. Et donc, ce thème-là va investir dans des boîtes qui sont en train d'atteindre la trajectoire de réchauffement climatique en lien avec l'accord de Paris, mais c'est clairement le fonds aujourd'hui le plus carboné du portefeuille, quoi.
Ok. Ah oui, c'est intéressant que ce soit le fonds le plus carboné, parce que, enfin, comme tu disais, peut-être c'est l'absence d'entreprises, mais est-ce qu'on n'a pas des entreprises en France qui, en Europe en fait, qui vont œuvrer dans ces pays-là ?
Ah si, mais du coup, c'est compté quand même comme des boîtes européennes, quoi.
Donc ça compte pas dans les fonds à pays émergents, c'est que des entreprises, fonds à pays émergents, c'est pour les entreprises qui sont dans ces pays-là.
De toute façon, la plupart des boîtes dans lesquelles on investit, sauf les PME, sont quand même des boîtes qui ont des activités dans différents pays. Je prends souvent l'exemple, Alstom, ils vendent des trains partout dans le monde, donc, mais ça reste quand même une boîte française.
Ok. J'aime bien qu'on revienne encore une fois sur Goodvest, pour que tu nous parles un peu plus de ton aventure chez Goodvest. Si tu devais retenir, un moment phare dans cette aventure, ça serait lequel ?
Waouh, il y en a beaucoup, ça dépend si c'est un moment phare plutôt positif ou bien alors échec.
Tu peux prendre les deux, tu peux prendre un exemple
positif et un négatif.
Positif et un négatif. Alors, positif, bon, les deux sont liés, bon, je commence par le négatif. Négatif, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus il y a un mois, post LinkedIn qui a très bien marché parce qu'il y a eu 125 000 impressions. Mais j'ai vraiment levé le rideau sur un côté de l'entrepreneuriat qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire les échecs. Quand il y a un an, quasiment jour pour jour, parce que c'était le 21 décembre, quelque chose comme ça. Enfin, je l'ai mis dans le post en tout cas. Il y a un fonds d'investissement qui devait investir 1 million d'euros chez nous, qui nous a planté 3 jours avant le closing. Qui avait signé une term sheet, hein, qui s'était engagé, même s'il y avait forcément des clauses qui permettaient de se désengager. Ben, il a choisi de se désengager 3 jours avant. On avait un mois et demi de trésorerie sur le compte bancaire. On avait quand même déjà 5-6 salariés qui comptaient quand même sur nous et sur la boîte. Des clients qui étaient là aussi, même si les clients, il n'y avait pas de risque pour eux parce qu'on proposait l'assurance vie qui est assurée par Generali, donc il n'y avait pas de risque pour les clients, mais quand même, ils auraient changé de gestionnaire d'épargne, ça serait devenu Generali du coup. Donc pas mal de stress, et donc c'était un moment pas facile. Surtout que ce fonds, en plus, quelques mois après, revenu, puis reparti, enfin, pas des gars très très sérieux, honnêtement. Donc ça, c'était une étape très difficile. C'était 3 jours avant Noël, je partais en vacances, voilà, j'allais en Normandie, c'était pas le meilleur jour de départ en vacances, exactement. Le côté positif, c'est que forcément, on a réussi à trouver... Et pas que qui était sur la levée de fonds, même c'était l'acteur majoritaire, et on avait peur que les autres acteurs, du coup, la levée de fonds se désengagent en voyant que le gros s'est désengagé. Heureusement, ils n'ont rien dit. Ils ont continué, ils ont investi, ce qui a permis à la boîte de continuer. Puis là, on a rebouclé une levée de fonds il y a quelques mois, et une extension de tour il y a quelques semaines, donc ça se développe plutôt bien là-dessus. Et donc voilà, je dirais que c'est un peu des montagnes russes quand même, et c'est ça les différents moments qu'on peut retenir.
Dans ton aventure, est-ce que tu as été soutenu par tes proches? Est-ce que tes proches t'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Trouve un travail normal et deviens salarié, s'il te plaît. Ou est-ce que non, ils t'ont soutenu, ils t'ont dit, non, mais vas-y, va à fond. Et à quel point ça a été important pour toi?
Ouais, grosse question, effectivement. Bah, ça dépend, mais forcément, je pense que les parents, ils sont assez protecteurs. Donc, au début, ils étaient bon, mais oui, mais t'as fait quand même une école hôtelière. Tu devrais peut-être bosser sur un projet dans le secteur de l'accueil. Ah, c'est très marrant parce que c'est quand même mon père qui, au début, quand j'ai voulu faire l'école hôtelière de Lausanne, m'a dit, non, mais tu devrais plutôt bosser dans la finance. Puis, j'ai toujours fait le contraire, en fait. Donc, non, j'ai pas bossé dans la finance. Enfin, j'ai pas étudié dans la finance. J'ai fait des études de management dans le secteur de l'accueil. Ensuite, un master entrepreneurial. Et quand je me suis dit, bon, en fait, finalement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, quoi. Il m'a dit, mais en fait, non, t'as fait plutôt des études hôtelières. Tu devrais pas bosser dans la finance. Tu devrais plutôt bosser dans le secteur de l'accueil. Et donc, c'était quand même marrant, toujours le contraire. Voilà. Effectivement, je pense qu'eux, ils sont plutôt... pas sceptique, mais pas vraiment bullish, en mode oui, allez, vas-y à fond, ça va cartonner, etc. Mais plutôt en mode assez prudent. Tu devrais d'abord te faire un peu les dents pendant 3-4 ans dans une entreprise, prendre un CDI, etc. Et puis, je pense que les amis sont un peu plus bullish. Donc, ils sont un peu plus, ils te soutiennent un peu plus au début. Mais après, au final, ça s'équilibre.
Et quand tu t'es lancé, est-ce que tu as fait d'autres aventures entrepreneuriales avant Goodvest? Mais est-ce que tu as eu peur de l'échec, surtout quand tu as commencé à avoir des salariés avec toi? Est-ce que la responsabilité d'avoir des gens que tu dois manager, en fait, et qui comptent sur toi pour que ton entreprise les paye à la fin du mois, finalement, c'est pas un coût supplémentaire, une pression supplémentaire?
Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Au début, je pense qu'il y a quelque chose que j'avais, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont au début, c'est le syndrome de l'imposteur. On se dit en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis la bonne personne? Ou alors quand j'ai des réussites, tu te dis, c'est juste de la chance en fait, je vais finir par me planter. Voilà. Syndrome de l'imposteur assez classique, on a quand même, je pense que beaucoup de personnes l'ont. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu t'enchaînes les échecs, mais aussi les réussites. Et tu dis, en fait, non, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Tu l'as de moins en moins, en fait. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, tu as beaucoup de stress. Effectivement, le stress, tu l'as plutôt sur les autres. C'est-à-dire que tu as peur que ça plante et du coup, tes collaborateurs qui, du coup, se retrouvent au chômage... doivent changer d'entreprise, etc. Tu as aussi tes investisseurs, hein, parce que dans nos investisseurs, on a des fonds, mais on a aussi des business angels. On a quasiment 30 business angels qui ont investi au capital de Goodvest. Bon, c'est plutôt des personnes qui ne sont pas à plaindre parce qu'ils ont investi des tickets entre 10 000 et 50 000 euros chez Goodvest et qu'ils ont un peu de moyens. Mais quand même, c'est quand même les sous qu'ils ont gagnés. Ils te font confiance, ils t'ont fait confiance au tout début, quand pas mal de monde ne te faisait pas encore confiance. Et donc, tu as un peu de pression là-dessus. Là, maintenant, on a 300 particuliers qui sont montés au capital... quasiment 500 particuliers qui sont montés au capital de Goodvest cet été, parce qu'on a fait un crowdfunding. Et donc, c'est pas des grosses sommes qu'ils ont investies, mais c'est quand même des particuliers, là, pour le coup, qui sont même pas des business angels. Après, ils le font en connaissance de risque, ils ont investi des petites sommes qui peuvent se permettre de perdre. Mais il y a, du coup, de plus en plus il y a vraiment de la pression. Et la pression, on l'a pas pour soi, on l'a plutôt pour les autres, effectivement.
On en discutait tout à l'heure avant de commencer le podcast et ça rejoint un peu cette volée sur l'entrepreneuriat. Vous avez du coup, avec ton équipe, lancé un podcast?
Effectivement. Au début, c'était moi qui l'animais, puis maintenant, c'est principalement Aurore, notre CMO, qui l'anime. Il s'appelle Monétique, comme monnaie au début, puis après éthique à la fin, donc avec un H. Qui au début était un podcast vraiment dédié à la finance verte. Et ensuite, on a élargi un peu le scope en parlant vraiment d'économie verte et d'entrepreneuriat à impact, en faisant intervenir pas mal d'intervenants, soit des entrepreneurs, soit des entreprises qui sont assez engagées pour faire transitionner l'économie. Et là, on est on a une vingtaine d'épisodes, en fait.
Et ça te sert d'inspiration pour, quand toi, tu l'animes ou même quand tu écoutes? Est-ce que ça te sert d'inspiration? Est-ce que ça t'aide à prendre... parfois des décisions ou à réfléchir sur les décisions que tu as prises par le passé?
Ça enrichit forcément nos connaissances, on apprend pas mal de choses. C'est un podcast qui est grand public, mais quand même un petit peu pointu sur le sujet environnement. Et donc, ça peut nous aider, surtout au début, quand c'était sur la finance verte, à apprendre pas mal de choses et effectivement à prendre des décisions. Là, aujourd'hui, c'est plus large quand même. On fait intervenir tout type d'acteurs. C'est assez inspirant. Après, ça n'arrive pas à les décisions de Goodvest jour après jour, quoi.
Et vous avez aussi lancé un blog pour l'investisseur ?
On a lancé plein de choses. On est très actifs sur les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, on fait des tutos sur l'investissement et sur la finance verte. On a un blog de l'investisseur également où il y a pas mal de choses dessus. Il y a des articles sur la finance verte, mais aussi sur l'investissement en général, des témoignages d'investisseurs, pas mal de choses. On a lancé un forum qui est un des premiers forums qui est dédié à l'investissement responsable et la finance verte, où n'importe qui, client ou pas client, peut poser des questions, s'exprimer sur le sujet. Donc on essaie de lancer plein d'initiatives parce que notre enjeu, c'est déjà de nous faire connaître, mais aussi de faire de la pédagogie. C'est un sujet qui est quand même pas encore vraiment un sujet grand public, même s'il est en train de le devenir. Il y a même Cyril Hanouna qui a fait un sujet dans TPMP il y a quelques semaines sur l'impact de l'argent, juste après avoir parlé de culottes d'influenceurs. Mais quand même, c'est en train de devenir tout doucement un sujet. Quand j'ai vu que TPMP faisait un sujet là-dessus, je me suis dit « Ok ». Là, il est en train de se passer quelque chose qui est bien. C'est en train de devenir un sujet grand public tout doucement.
Mais c'est vrai que quand tu parles des chiffres, hein, c'est impressionnant de dire que j'ai quasiment le double. Enfin non, je n'ai pas le double. J'ai 100% de mon impact carbone qui est présente dans juste ce que je détiens en argent. Enfin, c'est impressionnant. Mais ça fait peur. Ça donne le tournis. Quand tu penses à des grandes fortunes qui doivent avoir des fonds à n'en plus finir.
Alors, assez différent pour les grandes fortunes parce que c'est leur fortune professionnelle. Et donc, ce n'est pas de leur épargne financière. Okay. En fait, je prends Bernard Arnault, par exemple, le patron de LVMH. Je crois qu'il pèse quasiment 200 milliards. 95%, si ce n'est pas 99% de sa fortune, c'est les parts de LVMH. Hein. Donc, il n'a pas 188 milliards sur des livrets.
Non, c'est sûr. Après, il doit avoir quand même
quelques centaines de millions, quelques milliards. Mais effectivement, c'est assez différent. Quand même.
Bien sûr, ok.
Oui, tu disais du coup que vous avez lancé un blog, un podcast, tout ça. Donc, ça a vraiment derrière l'idée, c'est vraiment de démocratiser la finance. Parce que aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, mais qui n'ont aucune connaissance de la finance verte, etc. Enfin, moi, à commencer, j'aimerais beaucoup investir et épargner, mais je ne sais pas par où commencer. Quels seraient du coup les conseils que tu donnerais à ces gens qui sont un peu perdus ?
Je rajouterais juste un truc. Est-ce que aussi tu as ce sentiment que les Français connaissent rien à l'épargne ? Parce que j'ai l'impression qu'on est parmi les peuples qui ne connaissent rien à la finance.
Les incultes.
Ouais.
Et l'épargne verte surtout.
Non mais tu vas en Angleterre ou tu vas même aux États-Unis surtout, mais les gens ils connaissent tout sur leur épargne. En France on connaît rien. On a un livret A, on sait même pas ce que c'est.
En fait aux US c'est assez monnaie courante que les grands-mères offrent à leurs enfants, leurs petits-enfants des actions Microsoft. Pour commencer à ou d'autres actions Apple, voilà, n'importe quelle boîte, et ça commence ça permet de les éduquer dès le plus jeune âge. C'est vrai qu'en France il y a une culture financière, une éducation financière qui est très 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 basse, et c'est un vrai problème. On aimerait bien que même en école de commerce il n'y a pas de cours sur la finance personnelle. On n'apprend pas à gérer un budget, et du coup on se retrouve avec des découvertes bancaires quand on est étudiant, mais aussi quand on a un job. On sait pas gérer un budget, et en fait la principale préoccupation des pouvoirs d'achat des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et pourquoi? Pour moi il y a une vraie responsabilité là-dessus de la gestion financière. En fait les Françaises et les Français ne savent pas gérer un budget, ne savent pas mettre de côté, ne savent pas investir, et donc on se retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui est perdu, parce qu'il y a l'inflation en France actuellement, c'est plus de 6%. Et donc, on ne sait pas gérer un budget, on se retrouve avec des découvertes, on ne fait pas travailler son argent, donc il ne rapporte pas, et il perd de la valeur, et il perd du pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. Et je pense que là, si on arrivait à régler ce problème, il y aurait beaucoup moins de découvertes bancaires, et la première préoccupation des Français ne serait plus le pouvoir d'achat.
Si ça te dit de venir faire un petit cours à notre master, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on n'avait pas trop de connaissances sur la gestion personnelle de son épargne, aussi faible soit-il quand on est étudiant, mais si ça te dit de venir faire un cours, c'est avec plaisir.
Avec plaisir, d'ailleurs, on nous demande régulièrement, il y a différentes personnes de Goodvest, pas forcément moi, mais qui viennent parfois même au lycée donner des cours, parce que tu as des profs qui sont clients Goodvest et qui vont demander, oui, ça serait pas mal de faire un peu de sensibilisation là-dessus, de venir une demi-heure parler de l'impact de l'épargne, etc. Et donc, effectivement, avec grand plaisir, on pourra en reparler. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de pédagogie. C'est parce qu'il y a vraiment un problème de culture, déjà de budget, ensuite d'investissement. Et on ne parle même pas d'investissement responsable, parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'une action et une obligation, comme beaucoup de Français, difficile d'imaginer que notre épargne est pollue. Parce qu'il y a vraiment un lien. Il y a une bonne partie des Françaises et des Français qui ne savent même pas que leur épargne finance des projets. et l'immense majorité ne sait pas quel projet elle finance.
Si en 30 secondes, tu peux nous dire ce que c'est la différence entre une action et une obligation. Comme ça, tout le monde le sait. Tous les gens qui vont écouter le sauront.
Alors, une action, c'est une part d'une entreprise. Donc, on possède une partie d'entreprise. Donc, on a le droit, du coup, à des dividendes. On a le droit de voter aux assemblées générales. On est propriétaire d'une partie de l'entreprise. Comme on peut avoir une voiture, un appartement, bah, on est propriétaire d'une partie d'entreprise. On peut les acheter directement sur les marchés, ce qui permet demain d'acheter une petite part d'Apple, de Microsoft, de Alstom, ou alors de Total, si on veut, si on veut voilà, investir dans les énergies fossiles. Mais ce ne sera pas via Goodvest, du coup. Et sinon, une obligation, en fait, c'est le financement d'un projet. Donc, une entreprise ou alors un État va pouvoir financer un projet en émettant une obligation. Par exemple, le Grand Paris. Bah, en fait, les clients Goodvest financent une partie du Grand Paris via des métros du Grand Paris, etc., via des obligations vertes qui ont été émises par l'État. Et donc, on prête de l'argent. Et forcément, vu qu'on prête de l'argent, mais c'est comme quand on fait un prêt à la banque pour acheter un appart, on a le droit à des intérêts. Et du coup, on est rémunéré via ces intérêts. Donc c'est ça la différence entre une action et une obligation. Obligation, forcément, c'est beaucoup moins risqué qu'une action, parce que sauf si l'entreprise fait faillite, mais on investit dans des centaines d'entreprises et dans des centaines d'obligations qui sont plutôt des boîtes solides, on est remboursé toujours, plus les intérêts. Donc il y a très peu de risques sur les obligations. Et sur les actions, par contre, on s'expose forcément au prix de l'action. Donc une entreprise peut monter en bourse, elle peut baisser, mais sur le long terme, généralement, c'est plutôt haussier, et il y a des dividendes qui tombent.
Et pour revenir à ce sujet de pédagogie, parce que je pense que c'est assez intéressant pour nous tous de prendre un peu de recul là-dessus, est-ce que tu penses que l'État, là-dedans, a un rôle à jouer? Du coup, on parlait de cours dans les écoles, par exemple au lycée, ou même dans les universités ou dans les écoles supérieures. Est-ce que vous, c'est aussi votre ambition de travailler avec les pouvoirs publics et avec l'État pour pouvoir démocratiser ce genre de démarche ou...
Oui, ce serait top. Enfin, je pense que aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent dans la gestion de patrimoine, peut-être pas les banques, parce qu'il y a quand même un intérêt que les Françaises et les Français n'aient pas de connaissance là-dessus, c'est qu'on peut leur facturer à peu près ce qu'on veut. Les banques ont des frais qui sont 2-3 fois plus élevés que des assurances vie en ligne comme Goodvest, parce que c'est opaque et les clients ne savent pas combien ils payent. On a un intérêt, en tout cas les acteurs plutôt modernes là-dessus, à qu'il y ait plus de transparence et plus de connaissances. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cours, au moins sur la gestion d'un budget. Ça peut être, tu vois, on fait de l'éducation physique, on fait beaucoup de philosophie au lycée. Il pourrait y avoir, ne serait-ce que comme on fait de la sensibilité à la santé sexuelle, qui est de la sensibilité au pouvoir d'achat, quoi, et à la gestion d'un budget. Ce serait bien de mettre deux fois, trois fois par an, une demi-heure obligatoire, qui permette justement d'apprendre un peu à gérer un budget, à gérer ses dépenses, et à comprendre ce que c'est que l'inflation, comment est-ce qu'on y est exposé, comment est-ce qu'on peut éviter de s'y exposer, comment est-ce qu'on évite un découvert bancaire. Comment est-ce qu'on répartit ses dépenses entre le loyer, le loisir et puis derrière le fait de mettre de côté. Et c'est un sujet énorme et ça peut avoir une conséquence énorme sur l'économie française.
Le temps file, donc on va conclure cet épisode. Et pour conclure cet épisode, on voulait te demander un conseil que tu aurais à nous donner. Ça peut être sur n'importe quoi, la finance verte, la vie perso, la vie entrepreneuriale, ce que tu veux.
Alors, mon conseil, c'est de se renseigner avant d'écouter votre banquier qui va vous vendre une assurance vie de force. C'est d'explorer un peu le sujet, de comprendre, se poser vraiment 40 minutes, c'est pas grand-chose, par le moyen que vous voulez, soit en s'abonnant à une newsletter sur les finances perso, il y en a plein, soit en allant sur YouTube si vous êtes un peu paresseux, que vous n'avez pas envie de lire, soit en achetant un livre sur le sujet, mais c'est vraiment de comprendre les mécanismes, comprendre comment ça marche une assurance vie, comment ça marche les frais, ce que finance votre épargne, et derrière de le faire en connaissance de cause. Et c'est normal d'investir 30 minutes de son temps là-dessus quand on sait les conséquences que ça peut avoir sur des années et des années, à la fois sur sur vos finances perso et sur l'environnement.
Super, merci beaucoup.
Merci.
Merci Joseph d'être venu sur ce podcast. L'échange était hyper intéressant. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pépites.
Merci beaucoup.
L'innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation.
L'innovation radicale.